Salut.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Chers auditeurs, chères auditrices.
C'est Radiolab.
Roman sur Isère.
Collège La Passa.
Bonjour, bienvenue sur Radiolab du Collège La Passa des 6e 2. Les deux animateurs sont Noémie et Loan. Voici le programme de l'émission. Journée de la laïcité au collège, musée de la chaussure, les écrans et leur impact sur les jeunes, la tour de Conti en Italie, et pour finir, l'ouragan Mélissa. Nous allons vous laisser écouter Maxime, Mathis et Loan. Bonne écoute.
Qu'est-ce que c'est la laïcité ?
La laïcité a trois grands principes. La liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est la séparation de l'État et des organisations religieuses. La neutralité des services publics, c'est aussi l'égalité de tous devant la loi. Cette année, le Collège La Passa va fêter les 120 ans de la loi sur la laïcité qui date du 9 décembre 1905. Les élèves de 4 classes de 6e, les 6e 3, les 6e 5, les 6e 8 et les 6e 2 ont assisté à une pièce de théâtre à Valence sur la laïcité. Deux comédiens jouaient le rôle de scientifiques un peu fous. Ils cherchaient l'explication de mots compliqués comme, par exemple, la différence entre savoir et croyance ou qu'est-ce que c'est qu'être athée. Ils faisaient participer les élèves.
Les 6e 1 et 6e 3 vont créer un jeu sur la laïcité. Les élèves de l'option engagement sont aussi allés visiter la préfecture et réaliser une émission avec Radio Méga sur la laïcité. Tous les professeurs de MC ont parlé de la laïcité à leur classe. Merci les garçons et nous allons présenter le deuxième sujet, une interview sur le musée de la chaussure. Vous allez écouter Naïm, Malia, Wissam.
Bonjour et bienvenue, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Baudet, qui travaille au musée de la chaussure de Romans-sur-Isère. Bonjour Monsieur Baudet.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Oui, alors moi je m'appelle Baptiste Baudet, je travaille au musée, je m'occupe surtout des visites guidées, je suis médiateur culturel, donc je fais les visites que ce soit pour les scolaires, pour les familles, un petit peu pour tout le monde, pour présenter au mieux nos collections. Et puis, je travaille aussi sur le contenu, donc je fais les recherches, on peut travailler sur des expositions, plein de choses comme ça pour le musée.
On va vous poser deux questions sur l'histoire du musée, deux sur les collections et deux sur l'actualité.
Pour commencer, l'histoire du musée.
Pouvez-vous nous dire depuis quand existe le musée ?
Alors, le musée, il est installé aujourd'hui dans l'ancien couvent de la Visitation depuis 1971. Donc, ça fait un peu plus de 50 ans qu'il est ici, dans ce bâtiment à Romans.
Pouvez-vous aussi nous dire pourquoi il est à Romans spécialement ?
Alors, Romans, je pense que vous le savez un petit peu tous, mais c'était la capitale de la chaussure, surtout de la chaussure très haut de gamme, de la chaussure de luxe. Donc, c'est assez logique qu'on trouve le musée de la chaussure ici à Romans. C'est une thématique qui est assez rare dans les musées. Souvent, c'est plutôt des musées beaux-arts, avec des tableaux, avec des sculptures. Donc, vraiment, d'avoir un musée de la chaussure, c'est quelque chose qui est assez unique. Et ça s'imposait ici à Romans, sur ce territoire, puisque c'était ici qu'il y avait l'industrie de la chaussure.
Ensuite, on va parler un peu des collections du musée.
Et est-ce que pouvez-vous nous expliquer ce qu'on trouve dans le musée ?
Alors oui, le musée, il a une des plus grandes collections au monde de chaussures. On conserve plus de 20 000 objets. Alors sur les 20 000, en fait, on en expose très peu, un peu moins de 10%, presque, on va dire 2 000 objets sur les 20 000. Parce que notre rôle, c'est d'abord de conserver. Et après, ce qu'on expose, donc ce qu'on montre aux visiteurs, c'est pas que des chaussures de Romans, contrairement à ce qu'on peut penser. On a une grosse collection de chaussures de l'histoire, de chaussures des pays du monde, qui couvrent tous les continents, toutes les époques. La plus vieille chaussure, par exemple, elle a 3500 ans. Elle est en papyrus, elle a été trouvée en Égypte Voilà, donc des chaussures très variées, aux chaussures de Chine, de l'Inde, du Moyen-Âge, de la Renaissance. Donc vraiment des chaussures voilà, très variées et pas uniquement des chaussures fabriquées ici à Romans.
D'où viennent toutes les chaussures du musée? Est-ce qu'elles sont uniques?
Alors, pour avoir des chaussures au musée, on a plusieurs manières. Il y a trois grandes manières d'avoir des chaussures. La première, c'est les achats. On a eu des achats de chaussures qui ont été faits, notamment dans une des premières collections en 1968, d'un achat de plus de 2000 chaussures des différents pays du monde, etc., qui appartenait à un collectionneur parisien qui s'appelait Victor Guilaine. Et cet achat, ça a été un peu la base du musée. Après, il y a aussi beaucoup de dons. Puisque les chaussures, c'est des choses que tout le monde a chez soi. Donc, on a beaucoup de personnes qui nous appellent et qui nous disent « J'ai des anciennes chaussures, par exemple, je souhaiterais vous les donner. Est-ce que ça peut vous intéresser ?» Donc, nous, si ça vient compléter notre collection et que c'est des choses qu'on n'a pas, on peut déjà accepter aussi ces dons. Et puis après, la troisième manière d'avoir des collections, c'est les prêts entre musées. Ça, ça se fait beaucoup. Donc, on a des prêts de différents musées, et on a un très gros prêt, par exemple, du musée de Cluny à Paris, le musée national du Moyen-Âge, qui nous prête l'ensemble de ses chaussures depuis plus de 30 ans. Et donc, on a beaucoup de chaussures, comme par exemple des personnages importants, de Napoléon, de la marquise de Pompadour, qui ne nous appartiennent pas vraiment, mais qui sont prêtées par le musée de Cluny.
Et enfin, pour finir, l'actualité du musée.
Quels sont les événements en ce moment ?
Alors, nous, en ce moment, on n'a pas forcément d'événements à part là pour les vacances de Noël. Nous, on suit un petit peu tous les événements au long de l'année. Donc, on propose des visites à la fois pendant les vacances, des ateliers aussi. Et puis, on participe aussi à tous les grands événements, comme la Nuit des musées au mois de mai, les Journées européennes du patrimoine en septembre, etc.
Quels sont les éléments qui rendent le musée si visité ?
Alors, je pense que le musée, il plaît beaucoup par sa thématique qui est déjà originale. Et puis, ça parle à tout le monde. Les chaussures, c'est vraiment un objet qu'on a tous. Donc, ça permet qu'on soit tout petit ou très âgé. On peut être attiré par le musée et puis c'est assez universel comme objet.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Nous en avons appris plus sur le musée de la chaussure. Nous espérons que cela vous aura donné envie de visiter le musée. Merci encore et bonne fin de journée. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci encore à M. Baudet d'être venu dans notre collège. Merci aussi à Naïm, Malia et Wissam qui ont mené cette interview pour parler du musée de la chaussure. Maintenant, nous allons écouter Johannes et Pierrick pour leur chronique sur les écrans et leur impact sur les jeunes.
Bonjour à toutes et à tous. Dans notre chronique, nous allons parler de l'impact de l'utilisation des écrans chez les jeunes âgés de 11 à 17 ans. D'après une étude réalisée en France et parue sur le site du gouvernement, nous avons appris que l'exposition aux écrans avant le coucher est susceptible de provoquer des troubles du sommeil. Trop regarder les écrans entraîne des conséquences, par exemple des échecs scolaires ou des troubles alimentaires ou encore des difficultés de concentration. Ce ne sont que quelques exemples parmi beaucoup d'autres. Je laisse la parole à Pierrick.
Merci beaucoup, Younes. Il y a quatre règles à respecter, alors écoutez-moi bien. Pas d'écran le matin, pas d'écran pendant le repas, plus d'écran 2 heures avant le coucher et surtout pas dans la chambre de l'enfant. L'utilisation des écrans en soirée entraîne une réduction du temps de sommeil d'environ 30 minutes. Ce temps est principalement consacré à naviguer sur Internet ou à visionner des films et séries, dont le contenu n'est pas toujours adapté aux âges recommandés. 4 adolescents sur 5 utilisent tous les jours une plateforme comme YouTube, Snapchat, TikTok, Instagram ou Twitch, parfois avant 10 ans, et cela s'intensifie avec l'âge. Merci pour votre écoute, suivez nos conseils et à bientôt.
Merci à Johannes et Pierrick pour cette interview. Nous passons au quatrième sujet de cette émission, sur la tour de Conte en Italie, avec Sarah, Lia, Lucie et Kémissa, avec Madame Christin, professeure d'italien au collège.
Bonjour, nous allons vous parler de la tour des Conti. C'est une tour médiévale de Rome située dans la Rione Monti à proximité des forains impériaux, sur le site du forain de la paix. Ce lundi 3 novembre 2025, la tour des Conti s'est effondrée une première fois à 11h20 et une deuxième fois à 12h50.
Un ouvrier est resté piégé dans les décombres pendant environ 11h. Il n'a pas survécu à ses blessures. Nous accueillons Madame Christin, professeure d'italien au collège, pour nous parler de cet événement qui a frappé un pays européen. Bonjour Madame.
Bonjour.
Comment vous sentez-vous après ce drame ?
Eh bien, ce que je peux dire, c'est que, premièrement, humainement, c'est triste, parce que, comme vous l'avez rappelé, un ouvrier est resté plusieurs heures bloqué dans les décombres et en est décédé. Et culturellement, c'est réellement un coup dur.
Comment s'appelle cette tour en italien ?
Alors, en italien, elle s'appelle la Torre dei Conti. Ça ressemble énormément à ce que vous dites en français. Elle a été également surnommée Torre Maggiore, la tour majeure, en raison de sa hauteur. Parce qu'elle mesurait, à une époque, entre 50 et 60 mètres de haut.
Connaissez-vous cette tour ? L'avez-vous déjà visitée ?
Alors non, je dois vous avouer que je ne l'avais pas visitée lors de mes voyages à Rome. Mais un célèbre poète italien, Pétrarque, on l'appelle Pétrarque en français, Francesco Pétrarque, l'avait qualifié de unique en son genre, en raison notamment justement de la hauteur dont on parlait à l'instant.
Savez-vous pourquoi cette tour s'est effondrée ?
Alors, difficile de le dire pour le moment. Je pense qu'une enquête a été ouverte. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était en cours de rénovation pour devenir justement un musée. Donc, c'est encore plus dramatique. Et des études avaient été menées pour vérifier qu'elle était en état de subir les rénovations et que tout était sous contrôle et sécurisé. Et en réalité, elle s'est quand même effondrée.
Est-ce qu'à votre connaissance, d'autres bâtiments se sont effondrés ainsi en Italie ?
Alors, je n'aurai pas d'exemple précis, mais en effet, l'Italie a subi notamment des tremblements de terre, en particulier dans la région des Abruzzes. Il est déjà arrivé que des monuments s'effondrent. Et de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ensemble, tous les monuments sont quand même relativement en danger, parce que cela coûte beaucoup d'argent de les rénover et de les préserver. Et l'Italie est le pays qui compte le plus de sites UNESCO. Il en compte 51 au total, dont certains à Rome, évidemment. Et le gouvernement a tendance à réduire les sommes allouées à leur préservation. Donc c'est compliqué de les entretenir. Et donc, les monuments sont en effet clairement en danger.
Pour finir, est-ce que vous vous rendez souvent en Italie ?
Oui, assez régulièrement. Alors, on essaie de garder une alternance entre la France et l'Italie. Je m'y rends en famille. En général, une année, on reste en France et puis une année, on visite l'Italie. Et c'est toujours un plaisir et puis c'est important pour mon métier, découvrir pour mieux connaître ce dont je parle tous les jours. Et je dois avouer que quand je reste trop longtemps sans y aller, l'Italie me manque.
Merci bien de votre venue pour notre interview.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci à Sarah, Lia, Lucie et Kémissa et Madame Christine pour cette chronique. Nous arrivons au cinquième et dernier sujet de notre émission qui est l'ouragan Mélissa par Victoria et Asnachi. Merci Sarah, Lia, Lucie et Kémissa et Madame Christine pour cette chronique. Nous arrivons au cinquième et dernier sujet de notre émission qui est l'ouragan Mélissa par Victoria et Asnachi.
Bonjour, voici notre chronique à l'échelle du monde qui traite de l'ouragan Mélissa. Nous avons nos informations sur un jour une actu de France Info.
L'ouragan Mélissa est un puissant cyclone tropical qui a touché des milliers de personnes dans les Caraïbes.
Il s'agit d'un ouragan de catégorie 5, l'un des plus violents jamais enregistrés cette année dans l'océan Atlantique.
Avec des vents allant jusqu'à 300 km/h, de fortes pluies et des inondations, il a causé de gros dégâts, maisons détruites, routes coupées, électricité coupée et des dizaines de victimes.
Il a frappé en premier la Jamaïque avant de toucher Cuba, les Bahamas et d'autres îles voisines.
L'ouragan a frappé entre le 27 et le 30 octobre 2025.
Mélissa s'est renforcée à cause des eaux très chaudes de la mer des Caraïbes. Le réchauffement climatique favorise ce type d'ouragan de plus en plus violent et rapide.
Mélissa, c'est plus qu'un ouragan, c'est un signal d'alerte climatique.
Il nous rappelle que face aux catastrophes naturelles, il faut être préparé, solidaire et surtout agir pour limiter le réchauffement global.
Merci les filles pour cette chronique sur l'ouragan Mélissa. Cette deuxième émission est finie, j'espère que ça vous a plu. À bientôt sur Radio Lab et merci pour votre écoute. Au revoir.
Au revoir.